Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le programme pour ce soir sera commencé par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Vous pouvez également écouter notre programme culturel, le magazine culturel, qui sera suivi par Apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La ministre des Affaires étrangères a dit « Solution à deux États est la seule solution de la Palestine ». Luhut partira pour l'Australie afin de discuter la question de la Papouasie. L'ambassadeur iranien a offert la coopération de l'énergie rurale au ministre Marwan. L'entreprise de matériaux de tapis de l'Italie prépare l'investissement de 20 millions de dollars américains en Indonésie. Le café d'Indonésie a créé un record à Taste of Amsterdam. Et enfin, les produits indonésiens sont aimés par les visiteurs de l'exposition halal de Moscou. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que la solution à deux États était la seule solution de paix israélo-palestinien qui était convenue comme le résultat le plus important de la conférence de Paris pour la préparation de la conférence internationale de la paix le 3 juin. Le plus important de la réunion d'hier était la solution à deux États et la seule solution, a déclaré Mme Retno Marsudi lundi au bureau du ministère des Affaires étrangères, Pejambon, Jakarta. Selon elle, la réunion de Paris a démontré la forte volonté de nombreux pays pour soutenir le processus de paix palestinien et israélien qui est arrêté dans les mains de quartet tels que les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, l'ONU en 2014. Dans la conférence de Paris, la ministre des Affaires étrangères a également souligné que l'Indonésie, en tant que pays avec la plus grande population musulmane dans le monde, continuera à donner le soutien politique, l'aide humanitaire et le développement pour atteindre la paix en Palestine. L'invitation à l'Indonésie et la reconnaissance de la communauté internationale pour le rôle actif de l'Indonésie d'encourager la paix dans les niveaux régional et mondial. Cela a été aussi affirmé par les ministres des Affaires étrangères qui ont été présents à exprimer leur reconnaissance à l'Indonésie pour l'organisation du sommet extraordinaire de l'OCI sur la Palestine et Al-Quds Al-Sharif en mars 2016. Le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, se rendra à l'Australie mardi pour tenir une réunion bilatérale. À cette occasion, il discutera des questions stratégiques telles que le terrorisme et la question de la Papouasie, y compris la préparation de la délégation en Australie. Cette visite vise également à accentuer la question de la Papouasie. Nous voulons synchroniser, a dit Luhut. Il a déjà rapporté au président sur cette question. Le président veut que la question de la Papouasie soit résolue véritablement holistique. Le ministre du Village, du Développement des Régions Défavorisées et de la Transmigration, Marwan Jafar, espère que les relations entre l'Indonésie et l'Iran se déroulent bien. La forte coopération est dominée par le secteur de l'énergie ainsi que l'utilisation et le développement des ressources d'énergie alternatives. Cet espoir a été transmis par le ministre Marwan Jafar lorsqu'il a accueilli l'ambassadeur d'Iran en Indonésie, Waliullah Muhammadi, à Jakarta lundi. Il a expliqué qu'il suivait la géopolitique au pays du Moyen-Orient et il espère les relations de l'Indonésie avec l'Iran, en particulier dans le développement macro et micro, ainsi que la bioénergie, fonctionnent bien. Il a dit qu'actuellement, l'Indonésie était en train de développer les énergies alternatives par l'intermédiaire de l'utilisation de micro-hydroélectricité, l'énergie éolienne, la géothermie et la bioénergie. Pendant ce temps, l'ambassadeur iranien Waliullah Muhammadi a dit « L'Indonésie et l'Iran avaient de grandes possibilités de coopération dans le domaine de l'énergie de village. Iran, à cet égard, a mis en œuvre l'énergie géothermale pour répondre aux besoins en électricité jusqu'à 25 MW. Cette énergie géothermale est très apte à être mise en œuvre dans les zones rurales. » Le Conseil de coordination des investissements identifie l'intérêt de l'entreprise de matériaux de tapis de l'Italie à investir en Indonésie et prépare l'investissement de 20 millions de dollars américains en Indonésie. Le chef de BKPM, Frankie Sibarani, dans un communiqué de presse lundi, a déclaré que cet intérêt a été dit à travers le bureau de représentation à Londres par le PDG de l'entreprise basée à Milan. Cette entreprise est incluse dans le groupe de l'un des secteurs prioritaires de BKPM, l'industrie orientée vers l'exportation, où 100% des produits seront exportés vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'entreprise de l'Italie va visiter l'Indonésie en juillet 2016. Le nombre d'usines de cet investisseur dans le monde entier atteint 16 usines de 1706 travailleurs. On espère l'investissement de l'Italie en Indonésie pour augmenter la réalisation de l'investissement de l'Europe en Indonésie. La promotion culinaire annuelle sur le thème Taste of Amsterdam, qui a lieu à Amstelpark, Amsterdam, aux Pays-Bas, a créé un record de goûter le café original de l'Indonésie qui atteint 5314 personnes. Le ministre conseiller de l'information sociale et culturelle de l'ambassade d'Indonésie à La Haye, Aziz Nurwahyudi, comme cité par Antara Londres, a déclaré lundi que cet événement était un événement de la promotion culinaire annuelle de divers restaurants à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour la classe moyenne et au-dessous. L'ambassade d'Indonésie à La Haye y a participé avec le thème Maison de café de l'Indonésie, pour améliorer la promotion du café indonésien. Cette année, l'ambassade d'Indonésie à La Haye a présenté la maison du café de l'Indonésie qui a été ouverte par l'ambassadeur indonésien aux Pays-Bas, I Gusti Agung Wesaka Puja. L'ambassadeur Puja a affirmé que Taste of Amsterdam était inhérent de la diplomatie culinaire indonésienne. Selon lui, le café est devenu une partie de l'histoire des relations entre l'Indonésie et les Pays-Bas parce que ce sont les commerçants néerlandais qui ont transporté les graines de café à l'Indonésie au XVIIe siècle. Selon I Gusti Agung Wesaka Puja, le café est l'un des produits excellents d'exportation de l'Indonésie. Divers produits et la nourriture indonésienne tels que des croustilles et des boissons de gingembre rouge instantanées sont aimées par les visiteurs de l'exposition halal de Moscou tenue à Sokolniki Exhibition and Convention Center Moscou récemment. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Moscou a informé mardi que l'exposition a été ouverte par le représentant du Conseil des Mouftis de la Fédération de Russie comme organisateur de l'exposition et avait été assisté par les invitations de divers représentants étrangers, les institutions gouvernementales russes et la communauté des hommes d'affaires dans le domaine de l'industrie halal. Il a affirmé qu'à cet événement, l'Indonésie, représentée par l'ambassade d'Indonésie à Moscou, avait exposé divers produits, outre des collations d'emballage comme les nouilles instantanées, les haricots et les coustilles, et les boissons instantanées de gingembre rouge, des chemises en batik, des foulards en batik, des voiles, des accessoires et des sacs en cuir. Presque tous les produits de l'Indonésie ont obtenu une bonne réponse, en particulier les produits alimentaires. L'ambassadeur de l'Indonésie à la Fédération de Russie et la République de Bélarus, Wahid Supriyadi, dans son discours lors de l'ouverture de l'exposition, a déclaré que l'Indonésie, en tant que pays avec une population musulmane majoritaire, avait accueilli chaleureusement l'initiative du commerce des produits halal entre les nations qui ont tenu régulièrement chaque année à Moscou. La Russie, avec les musulmans d'environ 25 millions, pourrait être un marché potentiel pour les produits halal de l'Indonésie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cinq amis longtemps pour l'arbitre suivante. Voici donc le commentaire et pour le titre. La loi de l'élection régionale qui vient d'être adoptée améliore le système démocratique à l'élection régionale. Les révisions de la loi numéro 8 de 2015 relative à l'élection du chef régional a été approuvée le 2 juin 2016. La loi sur les élections locales ou pilkada a été révisée pour faire face à l'élection locale simultanée 2017 et pour répondre à certains problèmes qui se produisent dans les élections régionales 2015. Cependant, les résultats de la révision de la loi numéro 8 de 2015 concernant les élections locales sont toujours considérés comme faibles. Les militants et les observateurs juridiques évaluent que la loi révisée sur les élections locales ne reflétait pas les résultats de l'évaluation sur les élections locales 2015. Par exemple, lié à la demande de dos politiques non réglementés, bien que la demande de dos politiques se produise souvent. Un autre point important qui est considéré comme une faiblesse de la loi sur l'élection locale du résultat de révision est lié à la nécessité de la commission électorale et le conseil de surveillance des élections générales de consulter par le biais d'une audience avec le Parlement dans la rédaction des règlements de l'élection avant les décisions contraignantes. Selon les militants et observateurs politiques, ces dispositions détruisent le principe de l'indépendance de la commission électorale KPU et du conseil de surveillance électorale Bawaslu en tant que les institutions de l'organisateur des élections indépendantes. Et il y a encore quelques points qui font la loi numéro 8 de 2015. Des résultats de cette révision ne sont pas satisfaisants les nombreuses parties. Bien qu'il laisse encore quelques questions, la loi de l'élection locale du résultat de la deuxième révision est clairement une mesure progresse pour améliorer le système démocratique dans les élections locales en Indonésie. L'appréciation doit être soumise au Parlement et au gouvernement qui ont finalement achevé les longues discussions sur la révision de la loi numéro 8 de 2015 concernant l'élection du chef régional. Avec l'adoption de la révision de la loi numéro 8 de 2015 sur les élections locales, la commission électorale pourrait commencer les étapes des élections en 2017. Si la révision de la loi de l'élection du chef régional n'est pas terminée, les étapes des élections sont clairement perturbées. Comme il est connu que la commission électorale fixe la mise en œuvre des élections locales simultanément de deuxième partie le 15 février 2017. L'élection locale simultanée est suivie par 101 régions de la province, du district et de la ville. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 7 juin 1993, la création de la Commission nationale des droits de l'homme en Indonésie. La Commission nationale des droits de l'homme, ou Komnas HAM, est une institution indépendante en Indonésie. Ses fonctions sont de faire léger toute la protection, la recherche, l'éducation, la surveillance, l'enquête et la médiation sur les questions des droits de l'homme. Cette commission a été créée le 7 juin 1993 par le décret présidentiel numéro 50 l'année 1993. Le 7 juin 1993, le président de la République d'Indonésie à l'époque-là, Suharto, par le décret présidentiel numéro 50 en 1993, a créé la Commission nationale des droits de l'homme et désigné la retraite de chef de la Cour suprême de la République d'Indonésie, M. Ali Said, pour préparer cette commission et choisir ses membres. La décision du président est la réalisation des recommandations de l'atelier sur les droits de l'homme initié par le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation des Nations Unies, tenu à Jakarta le 22 janvier 1991. Le 7 juin 1999, la première élection générale en Indonésie a l'ère des réformes. L'élection du Parlement et du Parlement régional a été tenue simultanément le 7 juin 1999 pour élire les membres du Parlement et le Parlement régional pour la période 1999 jusqu'au 2004. Cette élection a été organisée pour la première fois après la chute du régime de Nouvel Ordre et la dernière fois suivie par la province de Timor Oriental. L'élection générale a été suivie par 48 partis politiques remportés par le Parti démocratique indonésien de lutte, ou PDIP. Le 16 juin 2008, l'ouverture de l'Euro 2008. L'Euro 2008 a lieu en Autriche et en Suisse du 7 juin jusqu'au 29 juin 2008. Ceci est la deuxième fois que la Coupe d'Europe a été organisée dans les deux pays. Auparavant, en 2000, a lieu aux Pays-Bas et en Belgique. La finale entre l'Espagne et l'Allemagne le 29 juin 2008 a été remportée par l'Espagne. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Les opérations de marché ne touchent pas encore à la baisse des prix ». L'opération de marché dans certains nombres de produits alimentaires a été faite pendant quelques jours avant le mois Ramadan, mais le prix sur le marché reste élevé. Le gouvernement indonésien a organisé des opérations de marché de la viande de bœuf et quelques produits dans quelques endroits à Jakarta le dimanche. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec des entreprises de fournisseurs de viande, a fourni 40 tonnes de viande de bœuf pour être vendues au prix de 80 000 rupiah par kilogramme aux quelques endroits de Jakarta le dimanche. Mais cette opération de marché ne peut pas encore réduire le prix de la viande de bœuf. Le ministre de l'Agriculture, M. Amran Suleiman, a déclaré dimanche qu'il se demandait si le prix de la viande de bœuf était encore cher. Selon lui, il y a eu l'approvisionnement de la viande provenant de plusieurs centres de production comme Nusa Tenggara Est. D'autres produits qui sont aussi chers sont l'huile de cuisson. En fait, selon lui, le stock de huile de cuisson atteint maintenant 1,6 million de tonnes et le besoin seulement 400 000 de tonnes. Selon l'agent indonésien de gestion logistique ou Bulog, comme l'un des exécuteurs de l'opération de marché, L'efficacité de l'opération de marché n'est pas encore ressentie parce que cette activité est faite pendant plusieurs jours. Selon le directeur de Bulog, M. Jarod Kusumayakti, les opérations de marché ne sont pas encore efficaces de réduire le prix car il y a l'obstacle, comme par exemple dans la distribution. Bulog a établi une coopération avec le secteur privé avant de surmonter ces obstacles. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, M. Hidayat Nur Wahid, a souhaité que le gouvernement puisse intensifier les visites sur le marché traditionnel pour contrôler les prix alimentaires pendant le jeûne et la fête de l'Eid al-Fitr 2016. Il apprécie la demande du président Joko Widodo de réduire les prix des boissons de base, y compris le prix de la viande de bœuf. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré que la solution à deux États était la seule solution de paix israélo-palestinienne qui était convenue comme le résultat le plus important de la conférence de Paris pour la préparation de la conférence internationale de la paix le 3 juin. Le plus important de la réunion d'hier était la solution à deux États et la seule solution, a déclaré Mme Retno Marsudi lundi au bureau du ministère des Affaires étrangères, Pejambon, Jakarta. Selon elle, la réunion de Paris a démontré la forte volonté de nombreux pays pour soutenir le processus de paix palestinien et israélien qui est arrêté dans les mains de quartets tels que les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, l'ONU, en 2014. Dans la conférence de Paris, la ministre des Affaires étrangères a également souligné que l'Indonésie, en tant que pays avec la plus grande population musulmane dans le monde, continuera à donner le soutien politique, l'aide humanitaire et le développement pour atteindre la paix en Palestine. L'invitation à l'Indonésie et la reconnaissance de la communauté internationale pour le rôle actif de l'Indonésie d'encourager la paix dans les niveaux régional et mondial. Cela a été aussi affirmé par les ministres des Affaires étrangères qui ont été présents à exprimer leur reconnaissance à l'Indonésie pour l'organisation du sommet extraordinaire de l'OCI sur la Palestine et Al-Quds Al-Sharif en mars 2016. Le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, se rendra à l'Australie mardi pour tenir une réunion bilatérale. À cette occasion, il discutera des questions stratégiques telles que le terrorisme et la question de la Papouasie, y compris la préparation de la délégation en Australie. Cette visite vise également à accentuer la question de la Papouasie. Nous voulons synchroniser, a dit Luhut. Il a déjà rapporté au président sur cette question. Le président veut que la question de la Papouasie soit résolue véritablement holistique. Le ministre du Village, du Développement des Régions Défavorisées et de la Transmigration, Marwan Jafar, espère que les relations entre l'Indonésie et l'Iran se déroulent bien. La forte coopération est dominée par le secteur de l'énergie ainsi que l'utilisation et le développement des ressources d'énergie alternative. Cet espoir a été transmis par le ministre Marwan Jafar lorsqu'il a accueilli l'ambassadeur d'Iran en Indonésie, Waliullah Muhammadi, à Jakarta lundi. Il a expliqué qu'il suivait la géopolitique au pays du Moyen-Orient et il espère les relations de l'Indonésie avec l'Iran, en particulier dans le développement macro et micro, ainsi que la bioénergie, fonctionne bien. Il a dit qu'actuellement, l'Indonésie était en train de développer les énergies alternatives par l'intermédiaire de l'utilisation de micro-hydroélectricité, l'énergie éolienne, la géothermie et la bioénergie. Pendant ce temps, l'ambassadeur iranien Waliullah Muhammadi a dit « L'Indonésie et l'Iran avaient de grandes possibilités de coopération dans le domaine de l'énergie de village. Iran, à cet égard, a mis en œuvre l'énergie géothermale pour répondre aux besoins en électricité jusqu'à 25 MW. Cette énergie géothermale est très apte à être mise en œuvre dans les zones rurales. » Le Conseil de coordination des investissements identifie l'intérêt de l'entreprise de matériaux de tapis de l'Italie à investir en Indonésie et prépare l'investissement de 20 millions de dollars américains en Indonésie. Le chef de BKPM, Franky Sibarani, dans un communiqué de presse lundi, a déclaré que cet intérêt a été dit à travers le bureau de représentation à Londres par le PDG de l'entreprise basée à Milan. Cette entreprise est incluse dans le groupe de langues de secteur prioritaire de BKPM, l'industrie orientée vers l'exportation où 100% des produits seront exportés vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'entreprise de l'Italie va visiter l'Indonésie en juillet 2016. Le nombre d'usines de cet investisseur dans le monde entier atteint 16 usines de 1706 travailleurs. On espère l'investissement de l'Italie en Indonésie pour augmenter la réalisation de l'investissement de l'Europe en Indonésie. La promotion culinaire annuelle sur le thème Taste of Amsterdam, qui a lieu à Amstel Park, Amsterdam, aux Pays-Bas, a créé un record de goûter le café original de l'Indonésie qui atteint 5314 personnes. Le ministre conseiller de l'information sociale et culturelle de l'ambassade d'Indonésie à La Haye, Aziz Nurwahyudi, comme cité par Antara Londres, a déclaré lundi que cet événement était un événement de la promotion culinaire annuelle de divers restaurants à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour la classe moyenne et au-dessous. L'ambassade d'Indonésie à La Haye y a participé avec le thème Maison de café de l'Indonésie pour améliorer la promotion du café indonésien. Cette année, l'ambassade d'Indonésie à La Haye a présenté la Maison du café de l'Indonésie qui a été ouverte par l'ambassadeur indonésien aux Pays-Bas, I Gusti Agung Wesaka Puja. L'ambassadeur Puja a affirmé que Taste of Amsterdam était inhérent de la diplomatie culinaire indonésienne. Selon lui, le café est devenu une partie de l'histoire des relations entre l'Indonésie et les Pays-Bas parce que ce sont les commerçants néerlandais qui ont transporté les graines de café à l'Indonésie au XVIIe siècle. Selon I Gusti Agung Wesaka Puja, le café est l'un des produits excellents d'exportation de l'Indonésie. Divers produits et la nourriture indonésienne tels que des croustilles et des boissons de gingembre rouge instantanées sont aimées par les visiteurs de l'exposition halal de Moscou tenue à Sokolniki Exhibition and Convention Center Moscou récemment. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Moscou a informé mardi que l'exposition a été ouverte par le représentant du Conseil des Muftis de la Fédération de Russie comme organisateur de l'exposition et avait été assisté par les invitations de divers représentants étrangers, les institutions gouvernementales russes et la communauté des hommes d'affaires dans le domaine de l'industrie halal. Il a affirmé qu'à cet événement, l'Indonésie, représentée par l'ambassade d'Indonésie à Moscou, avait exposé divers produits, outre des collations d'emballage, comme les nouilles instantanées, les haricots et les croustilles et les boissons instantanées de gingembre rouge, des chemises en batik, des foulards en batik, des voiles, des accessoires et des sacs en cuir. Presque tous les produits de l'Indonésie ont obtenu une bonne réponse, en particulier les produits alimentaires. L'ambassadeur de l'Indonésie à la Fédération de Russie et la République de Bélarus, Wahid Supriyadi, dans son discours lors de l'ouverture de l'exposition, a déclaré que l'Indonésie, en tant que pays avec une population musulmane majoritaire, avait accueilli chaleureusement l'initiative du commerce des produits halal entre les nations qui ont tenu régulièrement chaque année à Moscou. La Russie, avec les musulmans d'environ 25 millions, pourrait être un marché potentiel pour les produits halal de l'Indonésie. Sangitar, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici notre programme Apprendre l'indonésien. Notre sujet pour ce soir est Berbuka Puasa ou en français Rupture du jeûne. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions de langue indonésienne reliées au sujet aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Berbuka puasa. Berbuka puasa. En français, rupture du jeûne. Mengapa. Mengapa. En français, pourquoi. Kamu. Kamu. En français, vous ou toi, ou bien tout. Terburu-buru. Terburu-buru. En français, en hâte ou se dépêcher. Saya. Saya. En français, je. Segera. Segera. En français, immédiatement. Ou tout de suite. Pulang. Pulang. En français, retourner ou rentrer à la maison. Karena. Karena. En français, parce que. Menyiapkan. Menyiapkan. En français, préparer. Teh. Teh. En français, thé. Manis. Manis. En français, sucré. Hangat. Hangat. En français, chaud. Kurma. Kurma. En français, date. Makanan kecil. Makanan kecil. En français, casse-croûte ou collation. Mengganti. Mengganti. En français, remplacer. Énergie. Énergie. En français, énergie. Tubuh. Tubuh. En français, corps. Courant, lebih. Courant, lebih. En français, environ. 12 jam. 12 jam. En français, 2 heures. Makan. Makan. En français, manger. Minum. Minum. En français, boire. Chers amis, maintenant nous allons présenter l'exemple de conversation ayant pour titre Berbuka Puasa ou en français Rupture du jeûne. Cette conversation entre Marie A et Nita B au bureau. A. Mengapa kamu tampak terburu-buru? Mengapa kamu tampak terburu-buru? en français, pourquoi es-tu pressé? B. Saya harus segera pulang. Saya harus segera pulang. En français, je dois rentrer à la maison tout de suite. Karena saya harus menyiapkan buka puasa di rumah. Karena saya harus menyiapkan buka puasa di rumah. En français, parce que je dois préparer le repas de rupture du jeûne chez moi. A. Apa yang harus kamu siapkan untuk buka puasa? Apa yang harus kamu siapkan untuk buka puasa? En français, que préparez-vous pour rupture du jeûne? B. Biasanya saya menyiapkan teh manis hangat, kurma, atau makanan kecil lainnya. Biasanya saya menyiapkan teh manis hangat, kurma, atau makanan kecil lainnya. En français, d'habitude je prépare deux thé sucré chaud, les dates ou l'autre casse-croûte. A. Mengapa harus makanan atau minum yang manis? Mengapa harus makanan atau minum yang manis? En français, pourquoi il faut manger ou boire quelque chose sucré? B. Untuk mengganti energi tubuh kita. Setelah kurang lebih 12 jam tidak makan dan minum. Untuk mengganti energi tubuh kita. Setelah kurang lebih 12 jam tidak makan dan minum. En français, pour remplacer l'énergie de notre corps après n'avoir pas mangé ni boire pour environ 2 heures. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais présenter la place de Grenyu Watu Dodol, Banyuwangi, Java Est. Le gouvernement de Banyuwangi Java East a développé trois nouvelles attractions touristiques pour attirer les touristes, à savoir le réservoir Sidodadi, la place de Bangsering et la place de Grenyu Watu Dodol à Kalipuro. Le réservoir Sidodadi est la zone de plantation de cacao. À ce réservoir sera construit un village de chocolat. Plus tard, dans la place Bangsering, les touristes peuvent nager avec les poissons. Tandis que sur la place de Grenyu Watu Dodol, dans le district Wongsorejo, sera développé en trois zones pour choyer les touristes locaux et étrangers qui viennent. Watu Dodol est l'icône de la place de Banyuwangi située dans la région administrative du Kalipuro à 15 km du centre-ville de Banyuwangi et à 2 km du port de Ketapang. Cette place est très fréquentée par les touristes en raison de son emplacement stratégique situé dans l'axe principal de la région de Situbondo et Banyuwangi. Dans la zone de 12 hectares sera divisée en trois régions, à savoir la zone au public, la zone de l'intérêt particulier et la zone privée. Dans la zone désignée privée, sera construit les resorts qui sont séparés pour les touristes étrangers et les touristes locaux. Cependant, pour la zone générale, peuvent être visités par le public. Et la zone d'intérêt particulier est celle où il y a les tentes pour vendre des nourritures et des souvenirs. D'autres installations qui sont construites telles que le terrain de jeu, la mosquée, toilettes, musées et galeries des arts. Sur la place de Grignoua-Toudodol, il y a la pierre noire de 6 mètres de haut. Cette pierre a une forme unique dans la partie supérieure et plus grande que la partie inférieure. Cette pierre rend cette zone touristique connue sous le nom Watu Dodol. Dans le langage Java, Watu signifie pierre et Dodol est l'un des plats typiques de l'Indonésie à base de riz gluant, le lait de coco et le sucre de palme. Alors, Watu Dodol est une roche dure. Le long de la ligne côtière de Cocotière, les vagues ne sont pas si grandes. En outre, à Watu Dodol, il y a aussi une source d'eau douce qui se trouve près de la plage. Vous pouvez également profiter de la beauté de la plage à partir du haut de la colline. Au-dessus de la colline, il y a deux bunkers qui ont été utilisés comme cachets ou la défense pendant l'occupation japonaise. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse talentueuse, Sri Rosa Roslaina Handayani, ou plus connue avec le nom Rosa. Rosa est devenue connue après la sortie du premier album intitulé Rythme d'amour en 1976. Son nom était plus célèbre dans la musique de l'Indonésie sur les albums suivants. Voici sa première chanson intitulée Verset d'amour. Bonne écoute.
Bila keyakinanku datang
Chers auditeurs, c'était la chanson de Rosa intitulée « Verset d'amour ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ce.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook « Voice of Indonesia » ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Ce single a été publié à la fin 2007. Cette chanson est la bande sonore originale d'un film avec le même titre que celui de la chanson « Verset d'amour » basé sur un roman de meilleure vente de Habibur Rahman El-Sirazi qui a lieu en Égypte. Comme l'histoire dans le film « Verset d'amour », cette chanson raconte une histoire d'amour compliquée, un amour qui doit être partagé. La chanson est chantée parfaitement par Rosa, si bien que dans un court temps, elle a remporté le prix de platine en mars 2008. En 2008, cette chanson a été nominée pour la meilleure bande sonore de film de l'Indonésie, Movie Award 2009, et grâce à cet album, Rosa a gagné le prix comme meilleure chanteuse étrangère à Anugerah Industri Musik pour la deuxième fois. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson de Rosa intitulée « Hijrah Cinta ». Bonne écoute.
Semua
Chers auditeurs, Hijra Cinta est l'une des chansons religieuses de Rosa. C'est le premier single de l'album Love, Life and Music, sorti en 2014, qui est devenu la bande sonore d'un film avec le même titre. Ce film raconte l'histoire de la vie d'un des dirigeants musulmans indonésiens, Jeffrey Al-Bukhari. Sérieusement, la participation de Rosa au monde du divertissement en Indonésie est sans aucun doute. Pendant sa carrière, Rosa a vendu plus de 5 millions d'albums en Indonésie, n'est pas inclus dans d'autres pays. Son album a pénétré aussi le marché de la musique sud-est asiatique. Même l'album intitulé Love, Life and Music est commercialisé au Japon. L'album intitulé The Best of Rosa en 2011, se composant de 14 meilleurs choisis par Rosa elle-même, est devenu l'un des albums le plus vendus de tout le temps en Indonésie. Bon, Sarita, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Rosa intitulées Takkan Berpaling Darimu et Takdir Cinta. Bonne écoute et à demain.
Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena ku takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya diri cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling
toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.